Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans l'Afrique contre-attaque. Ça faisait un bail, mais on est de retour et on a pris des semi-vacances. On en prendra d'autres pour revenir en juillet, comme en séance l'été, partagé la dernière fois. Mais sans plus attendre, on saute dans l'action avec la conclusion très très prochaine de la reine Karama dite Hatshepsout. Du Kongossa à la cour d'Égypte. Qu'est-ce que le Kongossa? Vous le savez, dans une grande partie de l'Afrique, le Kongossa, c'est un peu les rumeurs hein, qui se disent dans la capitale, dans la ville, dans le village où on est, et qui parlent un peu au fait des derniers potins, des dernières rumeurs qui se passent dans les alentours. Du Kongossa dans la cour d'Égypte, ça existe aussi, car nous allons nous plonger dans un contexte, nous allons un peu comment dire, essayer de scénariser, si on peut dire ça, reconstituer une scène pour comprendre un peu l'histoire égyptienne que nous explorons ici. Alors nous sommes ici donc dans un village pas très loin de la cour d'Égypte. Et dans ce village, il y a une cour où des Égyptiennes se font tresser leurs cheveux, car, rappelons-le, hein, la civilisation égyptienne, la civilisation kémite, c'est une civilisation noire africaine, donc ses habitants, évidemment, ont les cheveux crépus. Nous rappelons que Hérodote disait les Égyptiens, pas Égyptiens, Égyptiens, les Égyptiens ou Égyptiennes sont noirs et ont les cheveux crépus. Et le mot noir qui est utilisé était le terme le plus fort, je crois, c'est mélanachroès, quelque chose comme ça, qui est le terme le plus fort en grec ancien pour exprimer la peau noire. Il y en a encore qui essaient de faire des débats là-dessus alors que les faits sont pourtant évidents. Donc, les anciens Égyptiens, Égyptiennes, ont la peau noire et les cheveux crépus. Ce qui m'amène à une émission que j'avais suivie dernièrement sur la chaîne YouTube et Instagram Grandeur Noire, que je vous recommande chaudement, qui est très intéressante. Cette chaîne, au niveau historique africaine, et qui parlait des cheveux. Il y a un documentaire, je crois, un épisode d'environ 1 heure qui a été fait. Et nous saluons vraiment le travail de l'animatrice. Et qui parlait au fait le développement du cheveu noir, comment il est apparu sur Terre, car nous savons, nous l'avons déjà dit ici, que l'être humain est apparu, qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui à Paris, apparu, à Égyptien, Égyptien, est apparu ici sur la Terre avec, vers la région des Grands Lacs. Je crois que ça m'a un peu rouillé de prendre un peu d'avoir fait quelques semaines sans podcast, ça m'a un peu rouillé la langue, hein. Bon, bref, on revient sur le sujet. On disait donc, j'espère que j'ai pas perdu la main, que l'être humain est apparu. On disait que l'être humain est apparu donc dans la région des Grands Lacs, et forcément, d'après la loi de Blogger, les organismes qui naissent dans ces latitudes-là, dans ces régions-là, ne peuvent avoir que la peau noire vu la dangerosité, si on peut dire ça, des rayons solaires qui se manifestent à ce niveau. Il est tout à fait normal que l'être humain ait cette espèce de ceinture de protection sur la peau afin de pouvoir résister à ces rayons solaires. Et la peau, évidemment, blanche ou claire, apparaîtra beaucoup plus tard dans l'histoire de l'humanité, plus de 100 000 ans plus tard, s'il faut le dire, car c'est suite aux migrations et aux différents changements génétiques et environnementaux que très 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 tard dans l'histoire, plus de 100 000, 200 000 ans après que l'être humain soit né, l'être humain avec toutes ses caractéristiques que nous connaissons modernes, c'est très très tard, vers peut-être moins 10 000, moins 8 000, que l'on se rend compte que voilà, il y a des personnages ou des personnes caucasiennes qui apparaissent. Donc lorsque l'on parle même de cette fameuse cité en Turquie, qui serait dite l'une des premières civilisations construites au monde, on a affaire encore là à des populations noires, car nous avons déjà dit que en Europe, durant la préhistoire, on a affaire à des populations noires. Lorsqu'on interroge par exemple l'art, les Vénus de Lespugue, les Vénus aurignaciennes, on voit bien des formes stéatopiges qui rappellent des formes africaines, et l'on voit bien des tresses qui rappellent des tresses africaines. Donc nous sommes ici, la transition est facile pour parler des tresses africaines en Égypte, dans la préhistoire, dans le prédynastique, et même dans la 18e dynastie où la reine Karama, dite Hatshepsut, règne. Donc ces populations-là ont aussi toujours des cheveux noirs. Le cheveu lisse aussi apparaît, car déjà vers la 18e dynastie, la population est extrêmement mixte, elle se mélange, car les Hyksos sont déjà passés par là. Mais nous savons que la population est toujours aussi noire et les cheveux crépus sont aussi présents. Donc, en ce milieu, donc dans ce petit village, il y a des femmes qui sont réunies, qui se tressent les cheveux. Elles font du Kongosa, elles font du Kongosa. Pourquoi Kongosa? Pourquoi ce mot se retrouve dans d'autres lieux de l'Afrique comme ça? On a dit que la racine Congo est une racine typiquement africaine, que l'on retrouve même déjà en Égypte ancienne. Je vous invite à la revue Kumaba de Dibomba Rimbok dans son premier numéro, où il parle de... du nom de la haute et de la basse Égypte, qui est symbolisé par l'abeille, l'abeille qui dans les langues africaines se traduit par Kongi, et qui on retrouve la prononciation facile avec Congo. Et cette racine là va se propager à travers l'Afrique avec le royaume Congo, avec par exemple le roi né Congo II dont nous avons parlé, avec par exemple le concept de Congo Rikishi qui se retrouve en Asie avec les deux gardiens de Bouddha qui sont des lutteurs, car nous savons que les lutteurs sont les guerriers qui sont typiquement africains, car la lutte nubienne africaine que l'on retrouve dans le tombeau de Khnoumhotep II, je pense, sous Mentmountouhotep II, durant la 11e dynastie, et bien cet art martial, cet art plutôt Muntu, ces arts Muntu seront propagés au niveau de la Nubie, au niveau de l'Égypte et même au-delà. Et voilà pourquoi en Grèce on a la lutte qui est introduite, et aussi au niveau de l'Asie. Car ces différents concepts-là vont voyager en Asie, car nous savons que les Perses ont envahi l'Égypte et ont envahi la Grèce, les Étrusques, et beaucoup de concepts sont passés en Asie à travers les Perses, notamment. D'où le fameux concept de Congo Rikishi, les fameux deux gardiens, les fameux deux lutteurs qui protègent le Bouddha. Et bien, c'est un concept que l'on peut retracer en Afrique. Pourquoi? Parce que il y a aussi un courant qui dit que les Congo Rikishi, ces deux gardiens lutteurs du Bouddha, sont inspirés de Hercule. Or, nous savons que Hercule est une figure que l'on retrouve chez les Étrusques avec Hercle ou Herc. Il y a une image d'un Hercule qui est présente au niveau des Étrusques. Cette image a été empruntée par les Grecs avec Hercule. Hercule lui-même qui a été emprunté chez les anciens Égyptiens avec Erichef ou même encore Banejet ou Banejef. Donc Hercule est un concept tout simplement africain, car Osiris a des différents avatars en Afrique. Les différents avatars sont les différentes émanations des mêmes personnages, mais avec peut-être une présentation différente. Hercule donc vient d'Osiris, vient d'Erichef, vient de Banejet, qui sont tous des émanations d'Osiris. Et nous savons que Hérodote a dit que la plupart des divinités grecques viennent d'Égypte. Voilà pourquoi les dieux de l'Olympe grec vont festoyer en vacances. Ils vont en Éthiopie. Donc, le concept de Congo Rikishi, qui est un concept que l'on dit être inspiré d'Hercule. Hercule, on sait qu'il vient d'Afrique. Il est Osiris, il est Banejep, il est Erichef. Donc, lorsque nous prenons le concept de Congo Rikishi au niveau de l'Asie, il nous ramène forcément en Afrique, que ce soit avec la direction d'Hercule, que ce soit avec la direction des Perses qui ont envahi ces différents endroits où Hercule était célébré. Hercule qui est une émanation d'Osiris, de Erichef, de Banejef, nous l'avons dit tantôt. Donc c'est ainsi que le concept de Congo, qui était très célèbre au niveau de la basse Égypte, donc au niveau du delta, donc au niveau de la Méditerranée de l'Égypte, ce concept de Congo que l'on retrouve avec le roi né Congo, qui règne déjà environ moins 500 avant Jésus-Christ, où les Perses arrivent. Donc on voit que cette racine là va facilement se projeter au niveau de l'Asie. Donc nous sommes dans les arts Muntu, et nous expliquons donc comment est-ce que les concepts de guerre ont été propagés au niveau de l'Asie. Et nous rappelons que au niveau de la basse Égypte, toujours au niveau du nord, nous avons celle que nous avons étudié ici, Nate qui est la déesse de la guerre, Nate, qui aussi va inspirer Nike, qui dont le nom rappelle Nke, qui est cette racine que l'on retrouve au niveau du Tshiluba. Nous en avons déjà parlé ici lorsque nous parlions de la reine Karama et de ce qu'il a inspiré. Nous avons parlé de Nate, nous avons parlé de Nike, nous avons parlé d'Athéna. Et tout ceci sont des éléments qui nous ont permis de comprendre et de façonner la personnalité d'Hatshepsut, cette personnalité guerrière, même si son règne s'est caractérisé par la paix. Mais il y a quelques récits de guerre quand même qui caractérisent son règne. Mais c'était beaucoup plus un récit de paix, c'est plutôt son beau-fils, je crois. Moïse III qui va plutôt se livrer, lui, à un règne plutôt beaucoup plus guerrier. Donc ça, c'est le décor et aussi un petit rappel de ce que nous avions vu récemment. Mais nous revenons à notre Kongossa, hein, car nous voulions expliquer un peu pourquoi ce mot Kongossa se retrouve un peu plus dans d'autres pays africains qu'on parle de Kongossa. Pas tellement aussi au Congo, on parle de Kongossa, c'est plus au Gabon, au Cameroun, en Côte d'Ivoire qu'on parle de Kongossa. Mais il faut comprendre que c'est un mot qui est connu dans le berceau africain. Car en fait le Congo aussi, hein, vous savez, c'est le berceau culturel et aussi spirituel des populations bantoues africaines aussi. Donc voilà pourquoi vous retrouvez un peu ce mot Congo, c'est un peu ailleurs. Et nous rappelons que le mot Né-Congo même, et nous en avons déjà parlé ici, se retrouve même beaucoup plus, pas simplement chez les Bakongo, du Congo central à l'ouest de la République démocratique du Congo, mais nous retrouvons aussi le nom Né-Congo en Namibie et même au Cameroun. Donc on voit que ce mot, ce nom a traversé les dites frontières coloniales, parce que avant la colonisation, eh bien, les peuples tout simplement se déplaçaient, naviguaient, partageaient, commerçaient, communiquer pour simplifier la chose. Donc le Kongossa que l'on trouve dans ce petit village dont nous parlons, je ne dis pas que le mot Kongossa était forcément employé par ces Égyptiens dont nous parlons à ce temps-là, mais je dis que la racine Congo était connue de ces peuples-là. Alors le Kongossa qui se trouve dans ce petit village, les femmes en train de se coiffer, eh bien, sont en train de parler des derniers potins qui courent dans la cour d'Égypte. Et les derniers potins sont sur la prétendue relation qu'il y aurait entre la reine Karama, dite Hatshepsut, et son fameux conseiller qu'on appelle Senenmout. Et ils se murmuraient comme ça, hein, jusqu'à présent, même dans les. Auprès des égyptologues, que Senenmout et Hatshepsut ou Karama auraient une relation, ils seraient amants. La relation aurait-elle commencé déjà lorsque Hatshepsut était reine, ou plutôt lorsque son mari était encore en vie? Vous connaissez le Congo, ça? Comment ça se passe? Comment les gens spéculaient? Oh, ils étaient ensemble, elle le trompait! Est-ce vrai? Est-ce vrai? A-t-on des preuves de ça? Bon, l'archéologie nous dit qu'il n'y a pas tellement de preuves à ce sujet, mais il y a de forts indices qui nous montrent que les deux étaient extrêmement proches. Et surtout, un indice qui fait certainement jaser nos Égyptiennes dans ce salon de coiffure antique, en disant que, mais il se murmure que la fille d'Hatshepsut, de Karama, qu'on appelle Néféroure, je pense, Néféroure, donc qui se traduirait peut-être par la beauté de Ré, mais vous savez, ces noms-là, il faut toujours les revoir avec le paramètre africain ou paradigme africain, parce que ces noms, souvent, ne sont pas des noms traduits correctement. Alors, il se passe qu'il y a beaucoup de statues qu'on a retrouvées, qui étaient déjà à l'époque visibles, de Senenmout, donc le conseiller de la reine Karama, et la fille d'Hatshepsut, et de Thoutmôsis II, son mari qui est décédé maintenant déjà, parce qu'elle règne et elle est morte. On dit qu'il y a beaucoup de fautes de statues représentant Senenmout avec la fille Néféroure. Plus de 7 statues. Et des statues où Senenmout, qui est en fait son précepteur, le précepteur de la fille Néféroure, blottit la fille contre lui, parfois à la tête de la fille sur ses cuisses, ou elle porte la fille, la petite fille, sur ses jambes. Donc on voit, on sent l'affection d'un père et d'une fille. C'est tout, c'est vraiment ce qu'on ressent dans le travail artistique de ces statues. On ressent l'affection d'un père et d'une fille, et pas simplement d'un précepteur précepteur et son élève, mais vraiment l'affection d'un père et d'une fille. Il y a les spéculations, donc le Congo, d'où le Congo ça, ce ne serait-il pas sa fille cachée, qu'elle a cachée à son mari peut-être à l'époque. Mais bref, vous savez comment l'être humain spéculait. Donc ces différentes statues font jaser, hein, donc ça fait parler, certainement... on connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui travaille à la cour et qui a vu ce qui se passait, qui a vu ce statut, qui est rapporté et qui, voilà comment la rumeur se propage à travers le royaume. Car même dans un des temples funéraires de Hatshepsut, dans un des couloirs, il y a un certain graffiti célèbre qui a été retrouvé où l'on montre Hatshepsut et Senenmout dans une position plutôt scandaleuse, pour rester poli. Donc tout cela montre que les travailleurs, que dans la plèbe, que dans la population égyptienne, eh bien, il y avait des rumeurs qui... le Kongossa, donc, battait son plein sur la fameuse relation intime de la reine Karama et une soi-disant aventure avec Senenmout. Ces statues font jaser, font parler de ce monsieur Senenmout, qui aussi est très, non simplement convoité, mais aussi vu avec beaucoup d'envie. Car le monsieur a plutôt un parcours fulgurant, étonnant. Il n'est pas de famille noble, il est plutôt de famille très 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 modeste, mais très vite et rapidement, il va se hisser en haut de l'échelon. Il va commencer d'abord comme... un personnage qui introduit au fait les personnes qui ont des doléances au niveau de la cour, c'est-à-dire lorsque le roi et la reine doivent siéger pour écouter les doléances du peuple, lorsqu'on envoie un émissaire par exemple pour pouvoir donner telle doléance au roi, et bien lui était celui qui faisait entrer, un peu comme un herald, qui faisait entrer les personnes et qui les présentait, voilà, Pharaon, voici tel monsieur qui ou telle dame qui est venue pour telle doléance, tel problème, et nous avons besoin de, ils ont besoin de votre clairvoyance sur ce sujet. Mais très vite, ses qualités d'ingénieur, ses qualités d'architecte vont être et de gérant, de gestionnaire, de fonctionnaire vont être notées, et petit à petit, il va prendre de l'épaisseur, il va prendre en grade, il va lui être confié plusieurs tâches du royaume, les tâches administratives notamment, et aussi architecturales. Il va s'adonner à construire plusieurs monuments et à faire plusieurs travaux pour l'intérêt de la cour royale. Et certainement, très vite, il tapera dans l'œil de la reine. Sommes-nous là dans une sorte de récit à les trois mousquetaires où la reine avait une relation avec le duc de Buckingham? On ne le saura peut-être jamais, hein, qui sait. Mais bon, son mari, le mari d'Hatshepsut, va nous quitter et va mourir, et quelques années après, Hatshepsut prendra le pouvoir, ou quelques mois, prendra le pouvoir, et elle fera de Senenmout son confident, son conseiller, bien après avoir été d'abord le tuteur de sa fille Neferouré, je pense. Mais il faut noter que Neferouré n'avait pas pour premier tuteur Senenmout, elle en avait d'abord un autre, et ensuite, en grimpant les échelons, Senenmout devient le nouveau tuteur, et plus tard, lorsque Hatshepsut aura besoin de lui à ses côtés, eh bien, on lui donnera ce titre-là, et Neferouré aura pour tuteur un autre égyptien. Mais pendant ce temps, pendant que les années passent, il y a un adversaire de Hatshepsut qui peut-être ne voit pas d'un très bon œil sa gestion du pouvoir, mais qui, au lieu de se plaindre, décide de se jeter dans le travail, décide de connaître les arts Muntu, les arts de la guerre, et de s'imprégner de tout ce qui est nécessaire pour avancer. Il faut se dire qu'à cette époque, Muntu Hotep est certainement encore vu comme un héros, car il est vraiment considéré comme une grande figure de l'Égypte ancienne, de sorte que l'un des plus grands ou les plus beaux temples de l'Égypte ancienne, le temple qu'on appelle le temple des millions d'années, qui sera designed ou construit par Senenmut pour Hatshepsut, sera construit juste à côté d'un des plus grands, d'un des grands temples de Mountouhotep. Et le monsieur dont nous parlions, qui se jette dans le travail, n'est tout autre que Toutmosis III, qui était trop jeune pour prendre le pouvoir, mais qui décide alors de se joindre à l'armée, de se former afin de devenir l'homme qu'il pense être. Nous pouvons à ce niveau penser qu'il avait certainement une vision différente. Hatshepsut, son règne est marqué par la paix, par un développement de la politique intérieure et voire une politique diplomatique avec le sud de l'Afrique, donc le pays de Punt où elle enverra une expédition très célèbre. Par rapport au nord, donc elle privilégie plus les relations sud-sud que les relations nord-sud. Alors que Toutmosis III a une vision un peu différente. Lui a une vision un peu plus nord-sud. Non pas simplement dans le sens de la coopération, mais plutôt dans le sens de la domination. Car grandissant certainement avec comme modèle Mountouhotep II, ou encore Amos, Kamos, qui sont ces pharaons-là, cette famille, qui ont libéré l'Égypte du joug Hyksos. Toutmosis III perçoit une menace du nord. Il se dit que ces gens nous ont envahis et le referont certainement. Il faut imposer le respect. Robert Greene, dans les 33 lois de la guerre, dit que si les autres ne savent pas ce qu'il en coûte de vous attaquer, eh bien ils vous attaqueront. Il faut imposer le respect. Il faut imposer la fermeté. Et c'est quelque chose que Toutmosis III comprend, et il ne se doit que d'étudier les arts de la guerre, les arts Muntu, pour ne pas dire les arts martiaux, car nous savons que Mars vient de Muntu, dieu de la guerre égyptien, que l'on dépeint comme un être avec une tête d'aigle et un corps d'homme et une couronne avec deux longues plumes sur la tête. Donc, Toutmosis III se lance donc dans le travail, il se lance dans l'armée, il se lance dans les arts Muntu pour apprendre tout ce qu'il peut, de sorte que son règne va aussi être qualifié ou surtout imagé ou caractérisé par Muntu que vénérait par exemple Mountouhotep, de sorte qu'il l'avait même injecté dans son nom. Et Toutmosis III aussi va, on retrouve des inscriptions avec Muntu, la guerre, pour pouvoir mener à bien ses missions de guerre. Donc au fur et à mesure que Toutmosis III grandit, se forme, il y a une espèce de guerre froide qui a lieu entre lui et Hatshepsut, Karama. Comme nous l'avons dit, Karama est plutôt une politique d'intérieur sud-sud. Toutmosis, lui, nous avons l'impression que c'est plutôt le nord qui l'intéresse, parce que son combat va se manifester là-bas. Bien qu'il y aura aussi des combats sud-sud. Mais nous rappelons encore ici la fameuse supercherie de l'égyptologie. Lorsqu'on présente Toutmosis, on dit voilà, il a fait des guerres avec les Nubiens. On va dire qu'on veut faire croire que la Nubie, c'est tout ce qui est le sud de l'Afrique. Donc tout ce qui est noir, c'est la Nubie. Alors que la Nubie, c'est un territoire qui est différent, par exemple, du pays de Punt. L'Égypte pouvait avoir des conflits avec le pays de, avec les Néessi, c'est-à-dire les Nubiens, mais il pouvait avoir des relations tout à fait diplomatiques avec les Medjay, ou qui étaient dans l'air armé, ou avec le pays de Punt, ou avec le pays de Wawat, ou avec les Libyens, c'est-à-dire les Tameko, qui étaient noirs à l'époque. Donc il ne faut pas tomber dans ce piège lorsqu'on parle de Nubiens, ou quand vous voyez des fresques avec des pharaons apparemment coloriés en rouge ou brun, avec ceux qui sont noirs, pour dire, ah voilà, il y avait un racisme, ils étaient deux populations différentes. Non, pas du tout. C'était la même population, c'est comme nous, les Africains, les Bantous, ou les Africains dans le monde, partout, la diaspora, que ce soit en Haïti, que ce soit au Canada, que ce soit aux États-Unis, en Europe, le phénotype noir est extrêmement varié. Hein. Il y en a plus de 36, hein, les différentes palettes de couleurs noires, c'est extrêmement varié. On va du noir soudanais qui vire vers le bleu, au noir qui est extrêmement jaunâtre. Quand on va au niveau des du Mali avec les Tamazigues ou les Amazigues ou les voilà au niveau du Kassai, au niveau du RDC par exemple, où l'on retrouve même des femmes avec des yeux verts par exemple. Donc le phénotype est vraiment très très varié chez les Noirs et il ne faut pas tomber dans ce piège. Oh voilà, les Égyptiens c'était la race rouge et puis on dit oh les Nubiens c'était les Noirs. Donc c'est tout à fait faux parce que l'on retrouve aussi bien chez les Égyptiens des phénotypes extrêmement noirs, par exemple comme Toutmosis, pardon, comme Mountouhotep II ou même sa femme aussi, la femme de Mountouhotep II aussi qui est où il y a une célèbre fresque où elle s'est fait tresser des cheveux des cheveux typiquement africains, des nattes africaines. Donc, il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Mais cette nuance de couleur va nous permettre de d'aller prendre un sujet actuel qui est celui de George Floyd. Vous savez, nous étudions ici l'histoire africaine et ce passé glorieux, aussi bien dans les périodes les plus sombres que dans les périodes les plus éclairantes. Nous allons l'utiliser comme un pont, comme une passerelle, au fait, pour pouvoir parler des sujets actuels, car nous ne voulons pas être dans une bulle et nous dire oh l'Égypte c'était beau, nous voulons y revenir, c'était tellement bien, j'espère avoir une machine, avoir un moteur de temps pour y retourner. Non, nous voulons prendre les sagesses qui s'y trouvent afin de pouvoir voir le monde tel que nous devons le voir, car le monde dans lequel nous sommes est encore géré par ces principes-là, mais nous sommes simplement parfois ignorants de ces choses qui sont pourtant bien vivant dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Nous parlions donc des différentes couleurs qu'il y avait en Égypte ancienne, qui sont noires, africaines, des personnes qui sont brunes de peau, qui sont tout à fait noires, comme on peut le retrouver dans les capitales comme à Kinshasa, comme à Libreville, ou en Guinée, ou encore, je sais pas moi, dans les îles, en Haïti et ailleurs. Big up à Haïti d'ailleurs, que je salue en passant. Donc, il y a toutes ces nuances que nous avons au sein des populations noires, qui malheureusement va faire naître le colorisme auprès d'autres personnes, car il y a eu ce mouvement de division auprès de ceux qui ont instauré le racisme et l'esclavage pour faire croire que voilà le nègre, enfin, vous connaissez le fameux syndrome du nègre de maison et du nègre des champs. Celui de maison, il sera beaucoup plus clair, et celui des champs, il sera beaucoup plus noir, et on va créer un antagonisme entre blanc et noir, ce qui est totalement ridicule. Car lorsque l'on va par exemple en Égypte ancienne sous la période de Mountouhotep II, on se rend compte qu'il y a des statues de Mountouhotep ou des représentations de Mountouhotep où il est extrêmement noir, dont une fameuse statue où il a les bras croisés qui est extrêmement noire. Mais il y a aussi des fresques où l'on voit Mountouhotep représenté comme quelqu'un avec la peau très brune, chocolatée ou voilà quoi, brune. Donc il n'est pas comme le noir de cette statue-là. Car le noir avait une signification symbolique de fertilité. Voilà pourquoi Osiris est appelé le grand noir. Donc le noir n'est pas simplement le phénotype de la personne, mais aussi une couleur symbolique. Donc il n'y avait pas de colorisme où on veut dire, ah voilà, ceux qui sont beaucoup plus noirs ou qui sont moins noirs, voilà, il y a une sorte de colorisme, on va diviser les populations en selon leur couleur, et ceux qui sont beaucoup plus clairs, eux-là, sont beaucoup plus avantagés. Non, pas du tout. S'il y avait le noir, très sombre, était certainement une couleur qui était associée au pouvoir, à la puissance, à la fertilité comme Osiris, car il meurt et il revient, car il est le dieu agriculteur, il est celui qui symbolise la graine, on le représente donc en noir, mais il représente aussi tout simplement toutes les populations noires qui avaient déjà à l'époque extrêmement noires, soudanaises, nubiennes, car quand on dessous vraiment on descend au sud du Soudan, c'est là où on trouve les populations les plus noires qui virent même vers le bleu, et voilà pourquoi on a, par exemple, Mine, l'un des plus vieux dieux égyptiens, qui est Mine, qui est extrêmement noir, parce que c'était comme ça que les populations se trouvaient. Donc, les Égyptiens n'avaient pas du tout de mal, de problème de se représenter soit extrêmement noir, soit avec la couleur brunâtre. Il n'y avait pas de colorisme. Chose qui est venue intervenir beaucoup plus tard avec les civilisations modernes que nous avons, avec l'esclavagie, avec l'esclavage et tout le reste. Alors, cela comme nous l'avons dit, nous va nous faire entrer au sujet de George Floyd, avec beaucoup de visions que beaucoup partagent en ce moment, notamment celle de vouloir faire passer George Floyd pour excusez-moi le terme, un salopard, un connard, pour dire au fait qu'il méritait ce qui lui est arrivé, parce que son casier judiciaire n'était pas du tout vierge, donc c'était un homme qui méritait ce qui lui est arrivé. Ou encore que ce que l'on retrouve avec le mouvement Black Lives Matter est tout simplement une manipulation de certains milliardaires qu'on appellerait George Soros ou de certaines éminences grises, blanches, qui contrôlent les populations comme des ventriloques et dont la voix n'est pas celle des personnes que l'on entend, mais qui c'est en fait la voix de certaines personnes qui voudraient simplement contrôler le monde. Donc on est en pleine théorie du complot à la Inspecteur Gadget ou je ne sais pas moi quoi, ou une main de fer caressant un chat contrôlerait le monde, un peu comme Blofeld dans James Bond. Mais dans tout ça, où est le vrai, où est le faux, où est la réalité, où est la fantaisie, ne serait-ce pas un mélange d'un peu des deux? C'est ici que les humanités classiques vont nous aider à y voir un peu plus clair. Alors l'un des arguments qui divise, notamment une sorte d'argument qui viendrait de ceux-là qui ne sont pas sur le territoire américain, qui voient les choses de loin et qui ne voient les Noirs américains que sur le prisme du hip-hop et de la télévision, un peu comme si on dirait qu'un acteur qui ne joue que des rôles de méchant mériterait la prison dans la vraie vie. C'est un peu ça, la manière dont on voit un peu les Noirs américains. C'est comme ça que l'on dit, parce que tous les problèmes qu'il y a avec la police, la majorité des gens qui sont hors du territoire, même certains qui peuvent aussi être ici, mais qui ne connaissent pas les réalités, notamment ceux qui sont de différentes entre guillemets races, diraient que la faute c'est simplement aux Noirs américains qui ne savent pas se comporter dignement lorsque les policiers les interpellent. Et ça, c'est ignorer complètement la réalité, c'est ignorer le nombre de personnes qui se sont fait pointer un flingue par un policier dans leur vie ici pour zéro raison. C'est ignorer les difficultés que ces populations noires vivent. C'est ignorer les différentes études scientifiques qui montrent que les Noirs sont contrôlés aléatoirement pour rien. C'est ignorer la réalité que les personnes vivent ici au quotidien, tout simplement parce qu'ils sont noirs. C'est ignorer le deux poids deux mesures qu'il y a lorsque un blanc est arrêté et un noir est arrêté. C'est ignorer les deux points de mesure, comment est-ce que les noirs sont traités lorsqu'ils sont appréhendés ou arrêtés ou interpellés par rapport aux noirs. Je prendrai par exemple l'exemple de Dylan Roof qui, lorsqu'il a tué et massacré après avoir prié, hein, donc un blanc qui entre dans une église de noirs, il prie avec ses personnes noires très âgées, et pendant qu'il prie, il sort son flingue, son Glock comme on dit ici, et il massacre tous ces noirs là et son but, il disait, il voulait créer une guerre raciale. Et lorsqu'il est arrêté par les policiers, eh bien les policiers vont lui acheter un burger en cours de route. Et bien que on sait que lorsqu'on est arrêté, on a les mains attachées derrière le dos, hein. Mais comment se fait-il qu'il a pu manger ce burger-là? Eh bien, tout simplement, c'est que quelqu'un l'a fait manger ce burger-là, comme si c'était sa petite amie, ou encore, alors on lui a peut-être détaché les menottes pour qu'il puisse toucher ce burger-là. Donc extrêmement choquant, ou encore des images de personnes de blancs qui sont arrêtées, mais on leur donne de l'eau à boire alors que George Floyd est en train de se plaindre qu'il avait soif, qu'il pouvait pas respirer. Et bien quelqu'un a porté ses genoux sur son cou et les mains en poche pendant 8 minutes et 46 secondes, et cela n'a suscité l'émotion ni du policier qui était sur lui, ni de ses acolytes, de ses collègues qui étaient autour de lui, qui l'ont vu simplement agoniser, mourir comme une bête qu'on a menée en sacrifice. Et je reviendrai sur cette notion de sacrifice car elle a un rôle symbolique pour comprendre ce qui se passe dans la planète maintenant. Donc, lorsque Dylan Roof se fait arrêter, plus tard, le juge qui va présider donc dira, pendant pleine audience, ce qui choquera l'Amérique, ou en tout cas certaines personnes, il dira, au fait, oh, pendant que l'on parle du monsieur, du criminel que l'on vient d'arrêter, nous devons comprendre aussi que la tragédie que nous vivons ici, c'est aussi la tragédie des parents de l'assassin, car ils sont aussi les victimes de cette tragédie. Chers amis, vous pouvez rechercher ce que je dis ici, c'est connu, c'est dans les réseaux sociaux, vous pouvez retrouver cette image où le juge dit que la tragédie qui arrive, donc tout un... Mais des Noirs ont été tués, des membres d'une église ont été tués par cet individu blanc. Et le juge, lui, a simplement compassion de la famille de l'assassin, dire que c'est eux, en fait, la victime, c'est aussi eux les victimes. Donc, un peu comme s'il dit, c'est eux les vrais victimes, c'est la famille de l'assassin qui sont les victimes. Même pas la famille de ceux qui en a tué, même pas ceux qu'on a tué. Non, lui a compassion de la famille du blanc qui a massacré les gens. Vous comprenez dans quel délire on se trouve. On ne prend donc pas en considération le système de deux poids deux mesures de personnes qui sont arrêtées, blanches, qui sont arrêtées sans problème, bien qu'ils ont des armes, de ceux-là qui sont partis dernièrement à l'un des capitoles, ou je crois à l'un des congrès américains, dans une des provinces ou dans un état des États-Unis, où tout un tas de blancs sont partis, je reviens encore ici, ce n'est pas un débat racial, on veut faire blanc, les blancs sont gentils, les blancs, les noirs sont mauvais, les noirs sont mauvais, les blancs sont gentils. Non, on ne veut pas tomber dans cette caricature là, on veut voir les choses à chaud, à froid plutôt. On veut voir les choses de sang froid et dire la réalité telle qu'elle est ici par quelqu'un qui est sur le terrain, car je suis aux États-Unis et je connais les réalités qui se passent ici. Donc il y a donc un système de deux poids deux mesures quand, lorsque les blancs sont appréhendés, les noirs sont arrêtés, même des enfants noirs, comment ils sont arrêtés, comment est-ce qu'ils sont fracassés sur le sol. On voit ces images. Nous rappelons sûrement que oui, dans les réseaux sociaux, il faut faire attention pour ne pas être manipulé, qu'on va prendre certaines images pour simplement les mettre et faire sortir et faire orienter le débat vers un certain point de vue. Mais il faut se relever, se référer aux recherches scientifiques sur ces questions. Il faut se référer par exemple à la naissance de la police aux États-Unis, que la police a été créée d'abord pour contrôler les esclaves, ce qu'on appelle les slave patrol. Il faut regarder les études scientifiques qui ont été menées sur la naissance, la jeunesse de la police et de l'esclavage pour pouvoir avoir un avis beaucoup plus nuancé sur le rôle de la police aux États-Unis, sur le rôle des services secrets aux États-Unis, sur comment est-ce que la drogue, le crack ont été implantés par des services de l'État. Ici, dans les communautés noires américaines, comment est-ce que les ghettos ont été construits aux États-Unis? Comment est-ce que les noirs ont été privés de déposer leurs inventions? Comment est-ce qu'ils ont été interdits d'avoir des emprunts? Comment est-ce que jusqu'à présent ça se retrouve lorsque même le dernier, ce qu'on appelle stimulus package, qui a été donné aux Américains, c'est-à-dire cette espèce de stimulus monétaire qui a été donné aux entrepreneurs, comment est-ce que les noirs et les latinos se sont sentis lésés par rapport à cette opération-là? Pour dire que c'est encore ambiant jusqu'à présent. Vous connaissez l'histoire de Black Wall Street, à Tulsa, Oklahoma, ce qui s'est passé. Une communauté noire très prospère d'entrepreneurs qui avait construit une ville extrêmement florissante et qui a été rasée, bombardée par les autorités américaines. Nous parlons aussi de Rosewood. Donc toutes ces images qui sont méconnues, qui sont occultées, et après ça, beaucoup de gens viennent donner leur point de vue sur les noirs américains qui seraient excessivement violents, qui seraient paresseux et qui ne voudraient pas obtempérer à la police. Mais lorsque d'autres le font, réagissent violemment, eux sont traités avec toute la décence et l'humanité possible. Et nous allons revenir sur les causes de ce constat-là. Il y a par exemple quelques mois ou années, je crois, où il y avait un individu blanc qui avait massacré sa famille et qui est sorti nu, qui a commencé à courir. Des policiers sont venus l'appréhender. Le monsieur a commencé à poursuivre des policiers et les policiers ont fui alors que les policiers étaient armés. Et ils ont tout fait, ils ont mis tout en leur pouvoir pour pouvoir arrêter ce monsieur-là de manière saine et le monsieur retrouvé aussi en prison sans problème. Si le monsieur était noir, je peux vous assurer qu'il aurait eu une balle entre les deux narines. Je répète, s'il avait été noir, il aurait reçu une balle entre les deux narines. Je prends cette métaphore, pourquoi? Parce que le nez cassé en Égypte, vous savez ce que ça représente aussi. Donc, ça, ce sont des cas particuliers que je prends, que sont visibles dans les réseaux sociaux, mais j'invite à prendre, comme j'ai dit, en compte les études sociaux faites sur ce qu'on appelle racial profiling aux États-Unis, hein, comment est-ce qu'on a des appréhensions et on tire un profil simplement parce que la personne est noire et les policiers vont venir l'arrêter et les questionner et les systèmes de deux poids deux mesures qu'il y a avec les caucasiens dans ce pays. Donc toutes ces études là doivent être prises en compte afin de pouvoir analyser la situation froidement. Et ensuite, il y a ce fameux problème où l'on dit que résumer ce que je venais de dire, on dirait que les noirs c'est leur faute parce qu'ils résistent lorsqu'on les arrête. Non, lorsqu'ils ne résistent pas, ils sont abattus comme des chiens ou ils sont tirés dessus. Il y a un cas de cet homme qui était noir qui je crois en Floride si je ne me trompe pas, mais en tout cas le cas est connu, qui a été dans le corps médical et qui essayait de rattraper un de ses patients qui avait fui l'établissement. Et le message avait été relayé à la police pour dire qu'il y a un monsieur, un malade mental qui était dans la rue. Et le noir qui était le médecin, en tout cas un professionnel de la santé qui poursuivait ce malade mental, avait réussi à le trouver. Et lorsque la police s'est rendue sur les lieux, ils ne savaient pas, ils étaient un peu surpris de savoir ce qui se passait. Alors le monsieur qui savait que il était noir, le patient était noir, et qu'ils étaient en danger parce que la police allait sûrement faire une bavure, il s'est couché par terre, il a demandé au patient de se mettre assis sur terre. Lui, il s'est mis, s'est couché sur le sol et a levé les bras et a commencé à donner, à raconter son histoire. Il dit, je suis un noir, je suis un, évidemment, pas la ligne noire. Il a dit, je suis un professionnel de la santé, voici le patient que nous recherchons pour lequel vous avez été appelé. S'il vous plaît, ne tirez pas. J'ai mes mains au-dessus, s'il vous plaît, ne tirez pas. Il a quand même été tiré dessus. Et il y a beaucoup d'histoires comme ça, comme celle de la dame en question pour laquelle on milite beaucoup dernièrement, où on dit qu'il faut aussi justice pour elle, qui a été tuée il y a pas très longtemps, qui était endormie dans son lit. La police a apparu dans son appartement, dans sa chambre, et on l'a tiré dessus alors qu'elle dormait. Comment a-t-elle résisté? Parce qu'on dit que oh non, c'est parce que les noirs résistent. Elle dormait paisiblement et on l'a tiré dessus. En fait, les policiers s'étaient trompés d'appartement. Ils voulaient appréhender quelqu'un. Ils sont entrés chez elle et directement, ils l'ont tiré dessus alors qu'elle dormait. Quel mal a-t-elle fait? Oh, peut-être qu'elle ronflait beaucoup. Hein. Peut-être qu'elle ronflait tellement fort et que son ronflement était comme le bruit d'une mitraillette et les policiers se sont sentis, oh, on est en danger et ils ont tiré dessus. Peut-être que c'est ça. Hein. Vous ne pensez-vous pas, chers auditeurs, que c'est à cause de son ronflement qu'elle a été tuée? C'est sa faute, non? C'est oui, c'est sa faute. Son ronflement ressemblait à une mitraillette. Donc elle a été tuée, c'est sa propre faute, n'est-ce pas? Donc, et des histoires comme ça, il y en a beaucoup, comme encore l'histoire du fameux Ahmaud qui était sorti tout simplement pour courir et il a été tué par deux blancs qui disent, oh non, voilà, on a vu un monsieur courir dans notre quartier, on a trouvé que c'était suspect, on a fait un arrêt national, on s'est comporté comme des patriotes et ils ont tué ce gars. Et cette image n'a été relayée par les médias ou par les autorités n'ont fait quelque chose parce que cette image en fait était sortie au grand jour et les gens ont exprimé leur indignation et c'est pour ça que ces deux personnes là ont été arrêtées. Autrement, ces personnes seraient libres comme l'air aujourd'hui. Et des cas comme ça, il y en a beaucoup. Des personnes qui n'ont jamais résisté, qui se sont fait tuer, des personnes même si ont résisté, ou des blancs qui ont résisté, qui ne sont jamais fait tirer dessus. Donc voilà le système de poids, de mesure qu'il y a en Amérique. Et lorsque l'on regarde les Noirs américains simplement comme, oh, ils sont des thugs, ils sont des voyous. Parce qu'on a l'image des films, parce qu'il y a l'image sur un jouet qu'ils utilisent au niveau de hip-hop, parce qu'ils disent, mais c'est vous-même qui créez leur image. Mais attention, il faut comprendre comment est-ce que le mouvement gangsta, comme on dit, gang des gangsters, est arrivé aux États-Unis. Comment est-ce que les Noirs américains ont surfé sur la vague pour pouvoir aussi trouver du pain? Car comme nous l'avons dit précédemment, ils ont été ghettoisés. Hein, on les a mis dans des ghettos, on a détruit leur volonté de vouloir s'émanciper économiquement avec des exemples comme Black Oklahoma à tout cela. Black Wall Street, pardon, à Tulsa, Oklahoma, en 1921, vous pouvez rechercher cette information, à Rosewood et autres autres communautés noires américaines prospères qui ont été détruites par les autorités en place, sans compter, évidemment, les raids du Ku Klux Klan qui sont partis brûler, lyncher, détruire, tuer des noirs américains et dont la majorité, tenez-vous bien, étaient des entrepreneurs. Ça, c'est une information qui sort bientôt maintenant là, que beaucoup de gens qui étaient lynchés étaient des entrepreneurs, des gens de l'élite qu'il fallait intimider et détruire. Et cela passe par un concept que nous avons appelé ici de l'impuissance acquise, ou qu'on appelle en anglais learn helplessness, hein, l'impuissance acquise ou l'impuissance apprise. C'est-à-dire que dans cette expérience qu'on avait fait par un psychologue, on mettait des charges, on mettait des obstacles à un chien, et lorsque le chien était confronté à l'obstacle, eh bien le chien n'essayait même plus, même lorsque l'obstacle avait été enlevé. Et voilà pourquoi on va critiquer les Noirs américains en disant que mais pourquoi est-ce qu'ils n'entreprennent pas plus, alors qu'on oublie l'opération de terrorisme qui a été fait contre eux avec le Ku Klux Klan et d'autres opérations, ou même la police en ce moment, pour enseigner l'impuissance acquise, l'impuissance apprise, c'est-à-dire que la personne ne veut plus entreprendre, ne veut plus oser, ne veut plus sortir, ne veut plus faire quoi que ce soit, parce qu'il sait que s'il ose, eh bien, il sera détruit, il sera tué. C'est ce qu'on appelle l'impuissance acquise, l'impuissance apprise, learned helplessness. C'est scientifique, c'est connu, c'est documenté. Voilà pourquoi on est dans un état dans lequel on voit. Donc, comme nous disions, les Noirs américains ont été mis dans des ghettos, ont été mis dans des opérations de gentrification où les quartiers où ils sont rachetés par une élite afin de pouvoir les transformer et sont poussés dans d'autres quartiers, où les gouvernements à travers des services secrets aussi ont implanté certaines choses au niveau des quartiers afin de pouvoir distraire ces populations-là. C'est connu, Malcolm X en a beaucoup parlé aussi. Donc ces populations-là donc on sont tombées dans la drogue, sont tombées dans des business dans une économie souterraine parce que l'économie légale comme Black Wall Street avait été sabotée. Donc d'où ils ont dû se réfugier dans l'économie souterraine. Et cette économie souterraine a été nourrie aussi par les autorités à travers le crack et la drogue. Donc, ainsi dit, les Noirs américains ont dû se construire donc une image gangster. Et cette image de gangster là a été aussi véhiculé par la musique, car les Noirs américains très tôt ont développé la musique, le blues, le jazz, le rock, tout ça vient des Noirs américains. Et lorsqu'ils ont développé leurs différents talents et qu'ils ont voulu se jeter dans l'industrie, mais qu'ils ont reçu des attaques pour pouvoir atténuer leur esprit d'entreprise, eh bien à un moment donné de l'histoire, c'est convergé l'économie souterraine de la drogue et l'économie artistique que les Noirs américains commençaient à développer, d'où la naissance du rap gangster, qui était au début militant pour militer sur les droits des Noirs, mais plus tard, ensuite, a maintenant dévié, après les années 90 et on arrive à 2000, qui a maintenant dévié après plus tard dans une image ou histoire de leur vécu quotidien, car le rap gangster ensuite montrait au fait la réalité des difficultés de la rue, de la drogue, de la violence, qui ne faisait que représenter ce qu'il vivait au quotidien. Car nous savons, comme nous l'avons dit, que les lois du logement ont été faites en sorte que les Noirs puissent être restés dans un seul et même bloc afin de les pénaliser. Et lorsque ces Noirs sortent, comme on dit, sortent du ghetto et vont dans des quartiers blancs, eh bien, ils en payent le prix parce que parfois ils vont se faire tuer ou leurs voisins vont les appeler, vont appeler les policiers pour dire que voilà, je suis dans un quartier où il y a un Noir qui court dans mon voisinage, je me sens pas à l'aise, je me sens pas en sécurité et voilà, après on va voir que le gars se fait tuer. Je sais pas si j'ai parlé ici d'un ami qui personnellement pendant ses études est sorti faire une course à pied et qui s'est fait interpeller par la police et il a passé 2 jours en prison comme ça. Et s'il savait pas se défendre, eh bien il aurait eu un casier, tout simplement parce qu'il avait décidé d'aller courir dans son quartier. Et ce jour-là, il avait décidé de ne plus jamais courir et il avait fait un post sur Facebook où il montrait ses chaussures. Il a dit, regardez ces chaussures, si vous les voyez, c'est des chaussures que je portais quand j'étais étudiant. Et ça fait plus de 10 ans passés. Mais si ces chaussures sont nouvelles aujourd'hui, eh bien c'est parce que j'avais décidé que je ne courais plus jamais 10 ans passés dehors. Je courais peut-être en gym, mais je courais plus dehors parce que je me suis fait arrêter par des policiers dans mon propre quartier parce que quelqu'un appelait la police alors que je courais dans mon quartier. C'est ainsi donc ici la dure réalité et les relations complexes entre blancs et noirs aux États-Unis, la manière dont ils sont perçus. Et dire simplement que c'était la faute de George Floyd qu'il n'a pas résisté, parce qu'il a résisté. Et d'abord c'est faux parce que les images ont montré que le monsieur n'a jamais résisté. Les messieurs n'ont jamais résisté, parce que d'autres vont dire que non, c'est parce qu'il y a une histoire de résistance. Les Noirs, lorsqu'ils sont arrêtés et les policiers ont fait la même chose. Non, il n'y avait aucune résistance. Le monsieur était complètement obéissant. C'est la police, au contraire, qui a donné un faux témoignage en disant que il avait résisté. Et les images qui ont été vues ont montré que le monsieur n'avait pas résisté. De deux, ensuite, on a dit qu'il n'était pas mort à cause d'un étranglement. Et le rapport de contre-expertise a justement contrer cette première autopsie, ce qui prouve que donc la police a donc menti 2 fois. La police officielle, c'est extrêmement grave. La police qui ment qui est destinée à protéger la population, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Et nous passerons ici, nous n'allons même pas citer tous les cas célèbres. Je dis bien célèbres parce qu'il y a beaucoup de cas méconnus et ça se passe tous les jours peut-être de personnes qui sont mortes sous ces mêmes conditions. Mais nous connaissons les fameuses grandes histoires, les plus célèbres, Tamise Rice, et j'en passe. Il y a beaucoup d'histoires, je crois que sur les réseaux sociaux, ça passe de tous les cas qui ont été recensés, de personnes qui d'hommes qui ont été tués comme ça sous les coups de la police ou à cause du racisme ou toutes ces choses. Et ça, c'est, je crois que c'est trending, comme on dit. J'ai pas envie de dire c'est la mode, mais c'est vraiment d'actualité, s'il faut le dire comme ça. Donc il faut connaître d'abord le contexte dans lequel les Noirs américains ont évolué dans ce pays. Et le fameux comme nous lisons, rap gangster, tout ça est une image au fait que les Noirs se sont donné pour pouvoir au fait dépeindre la réalité qui était la leur. Il faut comprendre comment ce mouvement gangster est commencé, qui en sont les responsables aussi, et qui en sont les influences. J'ai essayé modestement de pouvoir le dire ici. Cela évidemment, c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus long, mais nous, avec le format que nous avons, nous voulons rester vraiment succincts et nous invitons les auditeurs à faire leur propre recherche pour comprendre au fait la dynamique qui se passe au niveau des États-Unis. Nous ne voulons pas dire, comme nous l'avons dit, voir le problème de manière juste dichotomique, mais nous voulons expliquer une autre facette. Nous voulons exposer une autre facette du cristal pour en comprendre les nuances afin de pouvoir voir réellement l'avenir tel qu'il se profile maintenant. Alors l'autre grand problème, je vais essayer d'aller rapidement, c'est de dire que la faute c'est aux Noirs, parce que les Noirs ne s'aiment pas entre eux. Et il y a le fameux problème de ce qu'on dit « black on black crime », c'est-à-dire les Noirs tuent les Noirs. C'est la faute des Noirs parce qu'ils ne s'aiment pas, parce que les Noirs se tuent entre eux. Et on va fantasmer sur une fameuse union noire où tous les Noirs devraient être ensemble et c'est ce qui ferait qu'on puisse avancer. Chers amis, si nous attendons ce temps, eh bien nous attendrons longtemps parce que ça n'arrivera probablement jamais. On ne peut pas sauver tout le monde. Il y aura des gens qui ne voudront pas. Il y a des gens qui sont à l'aise de ce qui est une domination nord-sud, blanche sur les noirs. Il y a des gens qui aiment ça. Il y a des gens qui profitent de ça parce qu'ils sont des profiteurs, parce qu'ils savent qu'ils peuvent tirer leur épingle du jeu de ça. Le monde est ainsi fait. Il y a des rapports de force et chacun, parfois, comme on dit, lèche les bottes de telle ou telle personne pour en avoir les avantages. C'est tout à fait connu. Donc si on attend que tous les noirs puissent se solidariser pour une cause, c'est impossible. Il y en aura toujours qui seront contre. Si on attend toujours que tout le monde puisse être prêt pour une telle une action X, Y, Z, ça n'arrive jamais. Il faut partir avec le peu que l'on a, avec ceux qui comprennent. C'est la minorité souvent qui change les choses. Ce n'est pas pour rien que, par exemple, dans le monde, on voit des minorités qui arrivent à dominer des majorités. Ça se passe, c'est ainsi. Voilà pourquoi l'élite mondiale qui est, je sais pas moi, 2% de l'humanité, mais qui contrôle la plupart des ressources, que ce soit en Amérique, aux États-Unis, que ce soit dans d'autres pays. On voit des minorités qui contrôlent une majorité. Comment est-ce que on explique ça? Une minorité ethnique qui contrôle une majorité ethnique. Vous connaissez ce genre d'exemple. En Afrique, on en connaît. Je ne citerai pas de nom ici. Donc, comment expliquer ces choses? Donc, lorsque l'on veut simplement prendre la majorité pour pouvoir avancer, non, ça ne fonctionne pas toujours. Il faut que la minorité puisse aussi avancer. Donc, je revenais sur le fameux sujet de black on black crime, comme on dit. Le problème, c'est les noirs eux-mêmes. Ils se tuent entre eux. Et voilà pourquoi les choses n'avancent pas. Nous prendrons l'exemple de l'Égypte, qui est souvent notre paradigme ici. On dit que nous devons être unis. L'Égypte est intéressante. Pourquoi? Parce que l'Égypte est la première civilisation au monde où les Africains justement se sont tous réunis, car c'est un conglomérat de plusieurs tribus qui sont mis ensemble à travers la cérémonie qu'on appelait la Semata, ou lorsque la grande guerre des Chemsouhor a eu lieu vers moins 4000 avant Jésus-Christ, où la famille du prince Narmer a régné, a fait une guerre et aussi a fédéré plusieurs autres tribus, plusieurs autres totems, pour pouvoir construire une civilisation qu'on appelle la civilisation égyptienne, qu'on appelait Tamerie. Égypte, évidemment, le mot vient beaucoup plus tard, mais on appelait ça la Tamerie, la terre bien-aimée, la terre de la Ou, Congo, qu'on le retrouve au royaume Congo. Voilà pourquoi la Ou est symbolisée comme le nom du pays, du territoire, parce que ce sont des mots qui ramènent à l'arc-en-ciel, à l'union, au léopard, à la ville. Donc, c'est extrêmement vaste, extrêmement élargi. Nous y reviendrons. Nous en avons déjà beaucoup parlé ici. Nous reviendrons encore sur ces choses beaucoup plus ultérieurement, car c'est extrêmement puissant et vaste. Donc, toutes ces différentes tribus ont été mises ensemble. Voilà pourquoi, aujourd'hui, on trouve beaucoup de liens avec différentes tribus, différentes régions de l'Afrique. Différentes langues sont liées à l'ancien Égyptien. Parce que ce sont ces différents peuples qui étaient sur ces places, à cet endroit, qui ont migré pour aller ailleurs ensuite. Alors, voilà pourquoi ce qui fait que l'Afrique doit se réunir pour comprendre la civilisation égyptienne. Il faut étudier toutes les autres tribus africaines, leur langue, pour pouvoir comprendre ce qui se passe en Égypte, car chacun a une parcelle de ce qui faisait la grande Égypte pharaonique de l'époque. Cette union de tous ces Africains-là n'empêchait pas qu'il y avait aussi des conflits entre Noirs. Nous disons souvent que dans l'histoire égyptienne est assez tumultueuse entre les relations égypto-nubiennes, égypto-néhéciennes, car ce qu'on appelle les Nubiens, c'est ce qu'on appelle les Néhéci. Car l'armée nubienne, l'armée égyptienne était souvent formée de ce qu'on appelle les Medjay, qui était une autre tribu noire. Parce qu'on pourrait pas comprendre, parce que si on ne comprend pas, on va dire, ah voilà, tout le nord, tout le sud était noir, tout le nord était blanc. Mais pourquoi est-ce qu'il y avait que des armées, des médjaïs noirs? Pourquoi est-ce que ces médjaïs nubiens, s'ils sont nubiens, pourquoi ils combattaient contre leurs frères nubiens? Donc le noir a toujours combattu son frère sous un leadership blanc. Et c'est là où on se fait avoir. Non, les médias étaient noirs, les Égyptiens étaient noirs, les Néessi étaient noirs, les Wawat étaient noirs, le pays de Poun était noir, les Tameko étaient noirs. Tous étaient noirs. Évidemment, plus tard dans l'histoire égyptienne, il y a des blancs qui sont venus, comme dans la période des Grecs, à la période des Romains. Un peu, les Sémites aussi sont entrés avec les Hyksos. Mais dans les fondamentaux de la dynastie, au prédynastique, les premières dynasties, tout ça, elles sont exclusivement noires. Et nous avons beaucoup de chercheurs qui le disent. L'ADN l'a prouvé, la culture l'a prouvé, la langue l'a prouvé. Le colloque du Caire l'a dit, et les grands égyptologues l'ont dit, comme le clan Amelino, et j'en passe, Budge, par exemple aussi. Alors, faut toujours rappeler ces faits par moment. Alors, il y avait des combats. Il y avait le black on black crime dont les gens parlent. Il y avait le black on black crime. Les noirs et les noirs se battaient. Les Égyptiens et les Néessi et les Nubiens se battaient. Il y a plusieurs images de guerre et de conflit. Entre les deux, c'était je t'aime moi non plus. L'ancienne Égypte vient de ces peuples nubiens-là. L'Égypte est la fille des Néessi et la fille des peuples soudanais nubiens qui sont séparés après. Les autres ensuite ont évolué de leur manière. Les autres ont évolué de leur manière, un peu comme les Anglais qui ont traversé l'Atlantique pour construire l'Amérique. Ensuite, l'Amérique a évolué telle qu'elle est devenue. Elle est devenue la première puissance mondiale. Les Anglais sont restés en retrait. Ils ont aussi évolué avec leur culture capitaliste. Mais voilà quoi. Ils ont leur église anglicane. Les Américains ont évolué plus avec leur protestantisme. Ces deux civilisations sœurs, mais qui ont évolué aussi différemment. L'architecture s'est aussi diversée et devenue différente. On va peut-être pas comparer, voilà, New York avec une autre ville de ou Londres, oui, il y a des gratte-ciels, mais c'est pas comme New York, voilà quoi. Voilà pourquoi on va dire, ah, mais l'Égypte, et déjà même en Égypte, au Soudan, il y a plus de pyramides qu'en Égypte. Parce qu'on va dire, pourquoi est-ce que la grande pyramide n'est pas alors au Soudan? Non, mais il y a plus de pyramides au Soudan qu'en Égypte d'ailleurs. Il y a une très grande pyramide, oui, en Égypte, mais il y en a des plus petites au Soudan. Tout comme il y a une différence architecturale entre l'Angleterre et l'Allemagne, mais on sait que ce sont les deux pays, sont des pays frères, sœurs. Les pères fondateurs sont des Anglais. Donc c'est un peu ces images-là. Donc il y avait des combats entre nous. Donc ça ne veut pas forcément dire que tous les noirs doivent être unis, on ne doit pas entendre même un seul noir qui tue un autre noir, et c'est ça l'union. Non, on est des êtres humains. On est des êtres humains. On n'est peut-être pas plus humains que les autres. Peut-être que bon, oui, mais voilà quoi. On a parfois des attentes un peu trop idéalistes. Donc il y avait des combats entre noirs et noirs. Quand l'Égypte était super unie, quand on avait formé, déjà même avant la formation, il y avait une guerre entre nous. Après on a fait la paix. Ensuite il y a eu des guerres avec les Nubiens. Comme je l'ai dit, c'était je t'aime, moi non plus. Parfois ils faisaient la paix, parfois ils se séparaient. Parfois ils faisaient la paix, parfois ils se séparaient. Par exemple, avec la 25e dynastie dont nous parlerons bientôt, c'est les Nubiens qui sont venus sauver les Égyptiens parce qu'ils étaient envahis par les Assyriens. Ils sont venus sauver les Égyptiens et pour eux c'était une œuvre de libération et non pas de conquête, mais de libération de leurs frères, de leurs enfants, de leurs petits-enfants parce que c'est eux, les Égyptiens, viennent du Soudan, des Néessi. Donc voilà pourquoi maintenant on parle, oh, dans le temps moderne, oh, il y a le fameux black on black crime, les gens, les noirs se tuent entre eux. Non, les noirs se tuent entre eux tout simplement parce que ils sont tous dans un même quartier, il y a des conflits entre ces deux personnes. Ce n'est qu'un problème de proximité. Ce n'est pas un noir de New York qui quitte New York pour aller tuer un noir à Los Angeles, tout simplement parce qu'il a envie de tuer du noir. Non. On n'entend pas des tueurs en série ou noirs qui ne fait que tuer des noirs, qui ciblent les noirs. Voilà, il y a des problèmes, il y a des gens qui ont des problèmes psychologiques, des malades mentaux. Oui, ça existe. Mais il faut même dire black on black crime. Il faut d'abord poser la question, le fameux black on black crime aux États-Unis a commencé comment? Comme je l'ai dit, il faut comprendre comment est-ce que les noirs, les ghettos se sont formés. Lorsque les noirs avaient créé une ville prospère, comment ça s'est terminé? Qui a mis la drogue dans les quartiers? Qui a favorisé les ghettos? Qui a favorisé la paupérisation? Qui a favorisé le fait qu'on ne paye pas un blanc et un noir le même salaire? Qui a favorisé le fait que les universités étaient fermées pour eux? Qui a favorisé le fait que les universités ne bénéficiaient pas des mêmes largesses que ceux des autres? Qui a favorisé cette ghettoisation et ce crime là? Qui a favorisé ça? Et c'est la question qu'il faut se poser. Donc lorsque l'on rêve, voilà, d'une union noire, oui, les noirs vont s'unir, mais pas tous, pas tout le monde, il faut pas rêver. Parce que même en Égypte, c'est le symbole de l'union de beaucoup d'Africains, de beaucoup de tribus, mais même dans cette union-là, il y avait des conflits avec d'autres noirs. C'est tout à fait normal. Donc cet argument de black on black crime n'a pas de sens, ça tombe. What about, qu'en est-il alors du white on white crime? Les blancs qui se tuent entre eux. Les fameux blancs italiens de la mafia qui tuent les juges blancs. Pourquoi on ne parle pas de white on white crime, de blanc, les crimes entre blancs? On dit toujours, ah, les noirs se tuent entre eux. Et les sémites, qui sont soi-disant le peuple de Dieu, pourquoi ils se massacrent avec les palestiniens? eux, c'est par, ils ont la Bible, ils ont la Torah, et Dieu les écoute directement, non, quand ils sont au mur des lamentations, non, soi-disant. Mais pourquoi est-ce qu'ils se massacrent avec leurs frères? Qui sont leurs frères? Parce qu'ils disent qu'ils sont issus de Abraham, hein, Ismaël et Isaac. Donc c'est leurs frères, n'est-ce pas? Mais pourquoi ils se massacrent? Donc voilà, c'est sûr, il y a des mythes comme ça. Oh, les Noirs se tuent entre eux, voilà. Il faut seulement qu'ils soient ensemble. Non. Les Blancs se tuent entre eux. Ils ont fait la Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale. Nous, on l'a pas fait. Maintenant, oui. Apparemment, il y a des accords, il n'y a plus ce genre de guerre. Mais ils se battent maintenant entre eux à travers d'autres personnes, c'est-à-dire nous. Et j'expliquerai dans une deuxième émission maintenant comment est-ce que cette perception-là du noir diabolique, démon, est faite. Tout simplement, cela passe aussi par la religion. Dans l'image, par exemple, de Saint Georges qui tue le démon, le dragon, qui est noir, qui est en fait une image simplement de Horus qui tue le reptile, le crocodile, qu'ils ont changé. Et beaucoup se croient maintenant être des héros qui tuent des noirs parce qu'on croit que le noir, c'est le démon. Et je vais approfondir cela dans une prochaine émission. Merci beaucoup. Vie, durée et santé. À vous. Bye bye.